Puisqu'on parle de programmation, on parle forcément de concerts et de salles de concert. Et c'est vrai que c'est un secteur qui a été un peu mis à mal avec la crise sanitaire. Donc peut-être qu'en introduction, on peut réfléchir à la programmation dans le contexte actuel. Et vous déjà, dans un premier temps, quelle est votre lecture de la situation qu'on vit actuellement ?
Déjà, bonjour à toutes et tous.
Ah oui, pardon, je ne vous ai même pas présenté d'ailleurs. Présentez-vous, c'est important.
Du coup, moi, c'est Manon, je travaille à la Cave aux Poètes, qui est une salle de concert à Roubaix, une salle de concert de 200 places. Et tu peux te représenter.
Oui, bah, après.
Du coup, c'est un peu difficile de donner une lecture très objective parce qu'on a finalement assez peu de recul sur ce qui se passe actuellement. C'est aussi difficile de donner une vision globale parce que forcément on parle tous de notre endroit, donc moi je vais plus parler de mon endroit, c'est-à-dire d'une salle qui fait plutôt de la découverte et de l'émergence dans un territoire qui est le sien. Mais déjà peut-être ce qu'on peut... Il y a quand même des chiffres qui ont été publiés par le Centre National de la Musique assez récemment, qui parlent justement de la question de la fréquentation, parce que c'est une des premières conséquences quand même de la crise sanitaire, c'est des modifications au niveau de la fréquentation. Et en fait, la fréquentation, elle a augmenté dans les gros événements, les concerts avec des jauges de plus de 5000 personnes, les gros festivals. Et par contre, tout ce qui est plus petite jauge, là, la fréquentation, elle a baissé considérablement. Après, évidemment, il faut aussi nuancer, hein, parce qu'il y a des concerts sur lesquels on observe des diminutions, d'autres un petit peu moins, c'est très variable. En tout cas, ce qu'on peut dire dans les modifications, c'est qu'avant, là où on avait une espèce de recette qui fonctionnait un petit peu, où on savait que si on faisait telle esthétique musicale, et qu'on avait tel signaux, genre tel article dans la presse ou je ne sais quoi, potentiellement pour tel public ça allait marcher, on arrivait à jauger un peu de ce truc-là. Et maintenant, c'est extrêmement aléatoire et imprévisible jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'on peut programmer des dates où on se dit « Ah bah là, c'est sûr, ça va bien marcher, il va y avoir du monde, ça va intéresser, ça va parler à un certain public ». Et en fait, trois jours avant, on a vendu 10 places et là, on est là, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? Et en fait, 5 heures avant le début du concert, d'un seul coup, il y a 75 personnes qui prennent des places. Ou alors, il n'y a personne qui prend des places et on fait des concerts devant 20 personnes. Là, c'est moins agréable. Mais voilà, il y a une espèce de, globalement, d'incertitude à ce niveau-là qui est liée... Après, ça, c'est mon analyse à moi, mais je pense à des changements d'habitude... de sortie ou voilà, en sortant pas pendant 2 ans, on perd des réflexes de sortie. Je pense qu'il y a aussi des manières de consommer la musique qui ont évolué et auxquelles peut-être nous, en tant que salle, on répond pas ou plus ou pas assez bien. Et je pense qu'il y a évidemment, là ça c'est la nouvelle donnée depuis 6 mois, mais là il y a l'inflation où clairement tout le monde est en baisse de pouvoir d'achat et la première dépense qu'on va enlever c'est celle du loisir, même si nous on reste une salle avec des tarifs accessibles, on a nos places c'est 14 euros maximum, mais globalement on est entre 8 et 12 euros pour les places, donc c'est quand même un coût évidemment. Mais on n'est pas au niveau d'un 60 euros de Zénith, mais en fait, il peut y avoir aussi des comportements de se dire, bah en fait, je préfère mettre 60 euros dans un concert d'un artiste ou une artiste que je connais très bien, où je sais que je vais passer un super moment parce que en fait, c'est quelqu'un que je connais tout par cœur, plutôt que 2 ou 3 fois 12 euros dans un artiste émergent, découverte, où là, il y a un risque plus grand, où on va pas forcément prendre le risque de la curiosité quand on n'a pas trop les enveloppes qui suivent derrière.
Est-ce que du coup vous avez dû réajuster les activités de vos salles ?
On essaye. Là on est surtout dans la phase où on se pose un peu des questions, on essaye de mettre un peu des choses en place. On est en train de se poser la question de peut-être réduire le nombre de dates et du coup de faire moins mais mieux, c'est-à-dire de faire peut-être un peu moins de dates mais de les travailler plus, soit de faire des groupes un peu plus connus mais pas nécessairement, ça peut aussi être travailler des dates avec des concepts ou avec des partenariats, enfin voilà, essayer d'aller chercher autre chose que juste programmer un groupe dans une salle à telle heure, tel jour, avec un flyer qui dit « venez à telle heure ». essayer d'aller chercher un peu plus loin. Ce qu'on fait déjà un petit peu depuis maintenant 4 ans, on a un festival au mois de janvier qui s'appelle We Love Music, où on organise des concerts dans des lieux de patrimoine. Donc du coup, on a le côté un peu lieu atypique, hors les murs, où là du coup, on arrive à mobiliser un public qui vient à la fois pour la musique, mais aussi pour le côté un peu original de l'événement. Après, on n'a pas non plus envie de tomber dans ce travers-là, de dire « Ah ben en fait, maintenant la musique, on s'en fout, c'est pas ça qui est important, c'est l'expérience. » Donc il y a quand même un juste milieu à trouver, puisqu'on reste quand même avant tout une salle de concert, donc la musique reste au cœur des propositions, évidemment. Mais c'est des questions qu'on se pose, et là, ce qu'on est aussi en train de mettre en place pour cette année, qui avait déjà été fait avant, mais qu'on essaye de retravailler et un peu autrement, c'est de travailler sur des logiques de partenariat, notamment avec des collectifs de notre territoire, qui du coup ont une expertise sur une esthétique musicale, ont un public qui les suit, souvent n'ont pas de lieu, donc nous on en a un, et du coup de travailler justement sur des partenariats comme ça sur la programmation, qui fait qu'on est un peu moins hors sol, entre guillemets.
Et c'est important du coup de prendre en compte le public, justement, qu'est-ce qu'il attend, vous arrivez à le quantifier ou à...
On n'y arrive pas. oui. Non, c'est super difficile, puis en plus c'est pas tout à fait quantifiable, enfin il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on peut pas vraiment le quantifier, c'est plus des sensations, des expériences aussi, on fait des choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc on se dit ah bah là peut-être que... cette esthétique-là, à ce moment-là, ça marche pas. Enfin, voilà. On teste un peu des choses. Après, on avait avant un espèce de repère, mais qui, pareil, a complètement volé en éclats avec la crise sanitaire, c'était les abonnés. Alors ça, ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe quasiment plus. La logique d'abonnement, on l'a pas du tout retrouvée. Et ça, c'est le cas chez nous, mais on a pu l'observer aussi, il y avait une rencontre là récemment sur le festival Crossroads avec une personne de l'opéra qui parlait de ça. Elle disait que c'était exactement pareil à l'opéra où il n'y avait plus d'abonnés. Donc ça, c'était une jauge pour nous. On avait des abonnés à qui on pouvait aussi poser des questions. Voilà. Et là, on n'a plus trop ça. Donc on essaye de... Voilà, nous, on n'a jamais trop fait d'études de public poussées là, de manière récente en tout cas. Ça nous est arrivé de faire des sondages ou des choses comme ça, mais là, de manière récente, on ne l'a pas fait, donc on ne sait pas trop. On avise.
Alors, pour rentrer peut-être un peu plus dans le métier de programmateur, en détail, déjà, dans un premier temps, comment se définit l'identité d'une salle et par qui? J'imagine que c'est le programmateur. Est-ce qu'il est tout seul?
Ça dépend. Pour parler de la cave aux poètes, c'est plutôt le directeur, mais qui était programmateur quand il est arrivé à la direction. En fait, dans chaque salle, il y a un projet artistique qui est défini par plusieurs aspects. Alors, quand on est labellisé SMAC, donc scène de musique actuelle, on a un conventionnement avec l'État. Là, on a un cahier des charges qui est un peu précis, auquel on doit répondre, qui est un cahier des charges de diversité d'esthétique, de temps de concert par an, de faire de l'accompagnement, de faire de l'action culturelle. Donc le projet artistique, il est un peu cadré par ce cahier des charges-là. Après, il y a quand même une liberté, une forme de liberté dans la définition des projets artistiques dans chaque salle, qui est liée notamment à la question du territoire. Parce que on va pas programmer de la même façon si on est sur une métropole avec je ne sais combien de salles de concert, comme c'est le cas de la Cave aux Poètes, ou si on est dans un département où on est la seule salle de concert du département. C'est absolument pas la même approche. Parce que si on est la seule salle dans le département, il va falloir qu'on couvre un spectre très large d'esthétique parce qu'on est la seule proposition artistique. Quand on est sur une métropole avec plus de lieux, on peut se permettre d'avoir des positionnements un peu plus précis, genre bah, on fait un peu de tout mais on fait quand même un peu plus de rap, enfin voilà, ce genre de choses. Donc du coup, nous c'est le directeur qui est arrivé à la direction avec un projet artistique, donc avec évidemment défendre une diversité d'esthétique, mais au sein de cette diversité d'esthétique, nous c'était un axe sur le jeune public et sur le rap, qui sont des axes qui sont liés à notre territoire, parce que Roubaix c'est une ville qui a une longue histoire avec le hip-hop, alors plutôt sur le volet danse que sur le volet musique, mais voilà. Et également, puisque c'est une ville où il y a...
plus de la moitié de la population qui a moins de 30 ans. Donc l'aspect jeune public était important à ce niveau-là. Et après, en fait, c'est des choses qui évoluent aussi, puisque moi, j'ai repris la programmation, du coup, assez récemment. Et bah, en travaillant certaines choses, là, on se rend compte, et aussi par rapport aux évolutions du territoire, on peut amener d'autres choses. Là, par exemple, on essaye de développer un axe plutôt sur les musiques électroniques qui répond aussi à un constat qui est qu'à Lille, il y a plein de collectifs qui ont envie d'organiser plein de soirées autour des musiques électroniques, mais il n'y a pas de lieu pour le faire, notamment pour des soirées un peu tardives. Et nous, on a un lieu pour le faire et c'est une proposition qui nous intéresse. Donc du coup, hop, on ajoute un peu cet axe-là dans le projet.
Et puisque tu es dans un territoire où il y a beaucoup de salles de concert, est-ce qu'il y a des synergies de tournée entre les salles d'un même territoire ?
Au niveau de la métropole de Lille, non, c'est pas possible parce que si on peut pas faire une date à 3 km d'écart la veille ou le lendemain, parce qu'en fait on a beau être sur une métropole qui est quand même assez étendue, on travaille quand même sur un peu le même vivier de public, quoi. On est sur les mêmes populations. Par contre, on essaye de le faire à l'échelle plus régionale. Ça nous arrivait de le faire avec Dunkerque, on peut le faire avec Amiens. On ne l'a pas encore fait ici, mais ça pourrait très bien marcher aussi. On peut le faire avec Creil, La Grange à Musique. Voilà, on essaye de le faire, mais plutôt à une échelle régionale.
Et au contraire, est-ce que la concurrence existe entre les salles ? Et dans quelle mesure et comment tu l'envisages ?
Je pense que ça dépend. Il y a forcément de fait une espèce de concurrence. Nous, on est une salle de 200 places, donc on est un peu en dessous de la concurrence parce qu'en fait, disons que les tourneurs se battent pas pour caler des dates chez nous parce qu'on est une petite jauge, donc on est d'une certaine manière moins intéressant. Par contre, effectivement, sur l'aéronef et le Grand Mix qui ont des jauges qui sont à peu près similaires, évidemment qu'il y a des moments où ils vont être sur des propositions similaires et donc potentiellement ils vont être intéressés par les mêmes artistes.
C'est des réalités de tournée aussi. Un artiste peut vachement avoir un développement de carrière hyper vite en quelques mois et à commencer à parler programmation avec le Grand Mix qui est à 600 et en fait le remplissage va donner un aéronef à 1800 au complet. Donc ça peut, si les salles elles se parlent pas, ça peut provoquer des petites tensions de l'artiste est parti dans la plus grosse salle. Mais dans les faits à la base ça correspond en fait à une réalité de marché et de vente de tickets quoi.
Et sur quelle économie repose votre métier en termes de budget, moyens techniques et humains ?
Bah ça c'est pareil, ça dépend beaucoup des salles. Nous on a une économie qui est un peu particulière mais qui est commune aux salles avec des petites jauges, c'est que nous on peut pas couvrir nos frais avec une date à la cave. C'est-à-dire que nos recettes propres, c'est-à-dire la billetterie et le bar, ne couvre pas les frais qu'on engage pour une soirée, c'est-à-dire la session pour la tête d'affiche, l'engagement de la première partie, les frais d'hôtel et de repas pour le soir et le travail de l'équipe salariée. Donc du coup, on a quand même des recettes propres qui sont billetterie bar, qui font quand même un apport économique pour ces soirées-là. Nous, on est une équipe de 7 salariés, donc on se repose évidemment sur cette équipe de 7 salariés. Après, on a des bénévoles, sans qui nous ne serions rien, qui sont au bar, à l'accueil du public, à l'accueil des artistes le soir, et qui peuvent venir aussi donner un coup de main sur les aspects techniques. On a un parc matériel qui est ce qu'il est, mais parfois il faut louer des choses en plus. Voilà. Donc en termes de modèle économique, nous on a moi j'ai un budget de programmation à l'année où j'essaye de lisser un peu les choses pour faire une cinquantaine de dates. Après on sait qu'on sera pas. On gagnera jamais d'argent sur les dates qu'on fait. Et du coup, heureusement qu'on a des subventions qui peuvent venir prendre le relais, parce que sinon on aurait des places hors de prix et personne viendrait. Donc tout ce qu'on programme ne serait pas programmé.
C'est quoi la périodicité des dates, du coup, à la cave aux poètes ?
Sur la programmation ?
Ouais.
On fait du septembre-décembre et février-mai, parce qu'on a un temps fort festival en janvier et un temps fort de festival en juin.
Et comment se monte la programmation, concrètement ? Tu parlais du territoire, mais est-ce qu'il y a d'autres exigences ou même un prisme éditorial ?
On a ce que je disais tout à l'heure sur le projet artistique, le garder en tête d'essayer de faire un peu, enfin de faire une variété, enfin une diversité d'esthétique, pardon. Et je dis variété parce que c'est, pour le coup, c'est une des esthétiques qu'on fait pas, mais essayer quand même d'être assez large. Après, nous, on défend des projets qui sont plutôt émergents. Mais qui vont quand même faire venir un peu de monde, parce que l'objectif, c'est pas de faire jouer des groupes devant 10 personnes, parce que c'est agréable ni pour les artistes ni pour le public. Donc il faut essayer de trouver des propositions qui collent bien avec la jauge et avec le territoire. Et après, en garder en tête nos axes artistiques de rap, d'électro et de jeune public. Après, moi, je m'occupe plus du jeune public, mais... Et du coup, après, la manière dont ça se monte, il y a deux possibilités. Moi, je reçois des propositions de la part de tourneurs, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui m'écrivent pour me proposer des groupes qui sont en tournée ou qui m'écrivent pour me proposer des groupes qu'ils ont envie de faire jouer à la cave aux poètes. Et donc, moi, je peux répondre que ça m'intéresse ou que ça ne m'intéresse pas et qu'on y va ou qu'on n'y va pas. Et après, bon, bah, voilà, ça, après, il y a des négociations qui s'en suivent. Et sinon, il y a aussi moi qui... découvre un artiste ou me dit que ça se serait bien et qui va du coup trouver qui est le tourneur et essayer de le convaincre que nous sommes voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres salles, parce que nous on est une salle qui est quand même on est une salle qui est identifiée, qui existe depuis 30 ans, donc on est identifié. Néanmoins, il y a certains artistes où il faut qu'on aille un peu tirer pour les avoir, contrairement à des salles plus grosses où en fait les tourneurs, les programmateurs reçoivent énormément de propositions de tourneurs.
Quand t'as pas de réponse tout de suite, c'est parce qu'en fait ils attendent la réponse de l'aéro et du grand mix avant pour savoir si c'est bon chez eux, sinon ça va être plus petit.
Et ouais. Est-ce qu'un artiste peut te contacter directement ?
Ouais, carrément.
Et si oui, comment il doit s'y prendre ?
Alors ça dépend. En fait, nous, la manière de programmer à la cave, on a pour chaque soirée, on a une tête d'affiche et une première partie. Pour les têtes d'affiche, c'est quasiment toujours des groupes qui ont des tourneurs, parce qu'en fait, la règle importante à connaître, que j'ai découvert aussi en arrivant à la cave aux poètes et en commençant à travailler dans ce milieu, c'est que quand on organise une soirée où il y a du public et des gens sur scène, toutes les personnes sur scène sont obligées d'être salariées. Il y a deux possibilités pour qu'elles soient salariées, soit c'est nous, salles, qui les salarions, soit les artistes ont un tourneur qui les salarie et qui nous fait un contrat de session. Donc nous, pour les têtes d'affiche, on passe plutôt par des tourneurs pour plusieurs raisons. Déjà parce que administrativement, ça simplifie les choses. Et ensuite, parce que généralement, des groupes qui ont des tourneurs, c'est des groupes qui sont déjà un peu identifiés, déjà dans des réseaux. Ils ont aussi une force de frappe en promo derrière, qui fait que nous, ça c'est un signal aussi pour nous de dire que, OK, ça peut potentiellement faire venir du monde. Et après, sur la première partie, nous, c'est un parti pris à la cave, qui n'est pas le cas partout dans la région, mais qui, globalement, essaye d'être mis en place quand même par la plupart des salles, c'est qu'on fait des groupes de la région. Après, du coup, les groupes de la région, il faut que ce soit un peu raccord avec l'esthétique. Et,
de la première partie.
De la tête d'affiche. Et l'idée, c'est aussi que c'est mieux s'il y a déjà un petit peu d'expérience live, parce que comme on est sur une salle je ne veux pas dire une grande scène, parce que pour le coup, la scène de la cave aux poètes n'est pas grande du tout. Mais voilà, on est déjà quand même sur des conditions professionnelles, il y a des retours, etc. Donc on essaye de faire en sorte que les groupes, on ne les mette pas en difficulté en leur disant « Bon, bah voilà, tu as toujours joué dans ta chambre, sur ton ampli, et puis là, bah, demain, tu vas jouer devant 200 personnes. » avec des retours et enfin voilà, ça peut être aussi problématique à la fois pour le groupe et pour nous. Donc si on peut aussi parfois justement, je fais un mini crochet accompagnement, mais dans ces cas-là, si on voit qu'il y a besoin un peu de renforcer l'expérience live, on peut, si c'est possible, mettre à dispo la salle pour de la résidence en amont pour préparer cette première partie-là. Mais du coup, sur les propositions régionales, moi j'en reçois et je les garde et je les écoute et je réponds. Alors je mets du temps à répondre parce que je reçois beaucoup de mails et que je mets des drapeaux orange à répondre quand je suis en train de faire autre chose et que j'y reviens après quand j'ai le temps. Donc je mets du temps, mais je réponds en tout cas sur les propositions de la région. Par contre, quand je reçois des propositions de groupes qui sont pas de la région et qui ont pas de tourneur et qui sont pas encore identifiés et qui ont pas la stature de faire une tête d'affiche dans une ville qui n'est pas la leur, là c'est pas possible pour nous. Voilà.
Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux artistes qui souhaitent te contacter, justement? Est-ce que tu as vraiment des conseils pratiques à leur donner?
J'en ai plein. si vous êtes des artistes de la région des Hauts-de-France et que vous écrivez à des salles des Hauts-de-France, mettez-le dans l'objet du mail. Mettez votre provenance, parce qu'en fait, on a... En tout cas, là, je parle pour des salles du type Caveau Poète, hein, mais... je sais que c'est pareil pour les 4 écluses, je sais que c'est pareil pour la Lune des Pirates, je pense que c'est pareil pour la Grange à Musique. On a toutes et tous des missions d'accompagnement, de visibilité de la scène locale, donc en fait ça fait partie de nos missions de valoriser la scène locale, donc de programmer des groupes locaux. Donc en fait le fait que vous soyez un groupe de la région, c'est dans nos missions de faire en sorte que ces groupes-là soient visibles. Ça ne veut pas dire qu'on peut programmer tout le monde. Moi, j'ai 30 dates par an à la cave et je reçois à peu près ce nombre de propositions de la région par semaine. Donc évidemment qu'il y a des choix qui opèrent à un moment. Mais voilà, en tout cas, ça peut être quelque chose à savoir si vous écrivez à une salle de la région. Si vous écrivez à une salle qui n'est pas de la région, par contre, ne le mettez pas. Laissez-les chercher. Mais voilà, c'est un argument plutôt en votre faveur. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être synthétique, d'aller droit au but et que les informations les plus importantes soient visibles en 10 secondes, à peu près. Parce que comme je vous disais, comme il y a énormément de mails, un mail il peut très vite se perdre dans la mêlée. Donc moi, généralement, ce que je recommande dans les informations qui doivent apparaître, c'est du coup le style musical, éventuellement les influences, si vous voulez... Si vous n'êtes pas super à l'aise avec parce que définir un style musical, c'est parfois très compliqué. On ne sait pas si on est rock, psyché, crotte, rock. Voilà. On n'est pas obligé d'être super précis là-dessus. Par contre, du coup, si vous voulez préciser un peu, n'hésitez pas à mettre des influences. Nous, ça nous permet de situer direct. Par exemple, si vous dites que votre influence, c'est... je sais pas, je vais donner un exemple, Lysistrata, ce genre de groupe, si moi je sais que dans 3 mois j'ai programmé un groupe qui est un peu dans cette veine-là, potentiellement je vais me dire « Ah, ok, super, top, j'y pense ». Donc ça peut être pas mal. Après, le nombre de personnes et comment vous êtes organisé sur scène, c'est-à-dire y a un batteur, une chanteuse, une guitariste, voilà. Ça, c'est bon à savoir. Et des liens. Ne mettez pas de pièces jointes, s'il vous plaît. Déjà, c'est pas bon pour la planète. et c'est trop compliqué.
Ça bloque les boîtes mail.
Il faut cliquer, il faut avoir le bon truc pour le télécharger. Ça se met dans les documents. Et en plus, du coup, c'est pas... Enfin, en fait, si le mail, on le met de côté, on la zappe complètement, la pièce jointe, alors qu'en fait, un lien, on clique dessus, et ça reste dans notre truc, dans notre navigateur, et comme ça, on peut y revenir dès qu'on a un moment. Vraiment, les liens, c'est la vie. Mais pas de WeTransfer, non. Pas de WeTransfer, parce qu'un WeTransfer, ça périme en 7 jours, et puis des fois, on met 2 semaines à reprendre un mail, donc pas de WeTransfer non plus. Et sur les liens, ouais, ça, c'est pas forcément utile d'en mettre plein parce que, en fait, faut mettre les plus significatifs. Parce que de toute façon, en fait, c'est une perte de temps pour vous parce que si vous prenez beaucoup de temps à faire des mails avec plein de liens et tout, alors qu'au final, clairement, il n'y a pas tout qui va être écouté, c'est aussi, mettez des trucs significatifs si vous avez un clip, un morceau que vous estimez être le morceau un peu tube, ou alors qui représente bien votre univers. Et si vous avez une vidéo live, c'est chouette parce qu'on parle de live. Par contre, si vous avez une vidéo live filmée au téléphone dans des conditions pourries, ne la mettez pas. Ça vous dessert. Vraiment, une vidéo live, il faut qu'elle soit bien, sinon elle peut carrément desservir parce que nous, le live, c'est super important. Et du coup, dernière chose par rapport à ça, truc super important aussi, mettez bien les endroits où vous avez joué. les dates que vous avez faites. Et je sais que moi, j'ai pas mal discuté avec des artistes qui me disaient « Quoi, mais même le petit café pourri de je sais pas où, ça, je le mets pas. » Je dis bah, « Évidemment que si. » En fait, c'est super important parce que ça montre que même si, effectivement, c'est dans un café ou dans je ne sais quel événement, voilà, en fait, ça montre qu'il y a une expérience de scène, ça montre que vous vous débrouillez pour trouver des dates et c'est hyper rassurant pour une programmatrice ou un programmateur de voir qu'il y a déjà eu une expérience là, même si elle n'est pas significative, c'est déjà important.
Même en termes de public, en fait, ça peut permettre de se dire ok, ma tête d'affiche, elle va remplir de temps et du coup, la première partie, elle peut compléter le remplissage parce qu'il y a une implantation en local, il y a beaucoup de concerts qui se sont passés, donc il y a une fanbase qui a été créée. Et ça, je pense qu'on leur a, en tout cas pour refaire le lien avec l'accompagnement, on le rappelle, on n'en parle pas. Enfin, Pollyanna en a parlé tout à l'heure, de, justement, de pouvoir compter sur ces 1000 personnes-là. Et c'est aussi, finalement, très vendeur, pardon. Mais quand on va démarcher une salle, de dire bah, « En fait, moi, je suis capable de la remplir, la salle à 200, parce que je sais que mon dernier crowdfunding, j'ai eu, je sais pas, bah, ces fameuses 1000 personnes. » Donc ça aussi, je trouve que c'est des informations assez intéressantes. Il y a des fois des groupes qui nous mettent... Enfin, et si on... L'exemple en général, c'est O2N qui monte ses tournées tout seul en disant à ses fans où est-ce que vous voulez qu'on aille jouer, et en fait ils remplissent avant même de trouver la salle. Et ça, en fait, il faut toujours vous rappeler que il faut que la salle elle soit remplie. En fait, un tourneur va vous vendre, et une salle, il faut qu'elle soit remplie, même s'il y a des financements qui permettent l'émergence et d'aller sur des prises de risque. Si vous arrivez en mettant un petit peu des chiffres et des choses rassurantes, ça peut balancer en votre faveur.
Carrément. Et peut-être dernière chose là-dessus sur cette question de mail, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une proposition et une demande claire. Parce que des fois, on reçoit des mails, enfin moi des fois je reçois des mails de groupe où juste on m'envoie des liens. On me dit bonjour, on est machin, voilà. Et du coup, je comprends pas, parce qu'en plus, je m'occupe aussi de l'accompagnement. Donc en fait, je sais pas si c'est parce qu'on veut une date, si c'est parce qu'on veut être accompagné, si on veut une résidence, si on veut un rendez-vous. Donc n'hésitez pas à spécifier la demande. La demande, ça peut être je suis dispo pour vos premières parties ou n'importe quelle date, n'hésitez pas. Point. Potentiellement, si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à relancer, mais alors relancer de manière raisonnable. Moi, le conseil que je donne souvent, c'est de trouver des excuses pour relancer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien envoyer un premier mail qui est « je me présente », du coup, on voit votre nom passer. Et en fait, même si on ne répond pas, le nom, on l'a vu, on l'a mis dans un dossier proposition régionale, on a écouté, peut-être qu'on n'a pas répondu, mais voilà. Et en fait, par exemple, si vous avez une sortie, si vous avez une date de concert pas très loin, si vous avez, je sais pas, une actualité, n'importe laquelle, vous envoyez un mail pour dire bah, bonjour, j'avais écrit un petit mail pour me présenter, voilà mon actu. Point, vous remettez les infos importantes dont on a parlé, toujours dispo pour une première partie. Voilà. Et en fait, on revoit le truc. Et il y a un truc vraiment de voir le nom passer, ça marche. Parce qu'en fait, potentiellement, quand le mail il arrive, on n'a pas la date qui colle, on n'a pas l'opportunité. Par contre, peut-être que 3 semaines après, on va faire « Ah, mais ouais, grave, ça marcherait trop bien, en fait, c'est super. » Donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps, qui sont hyper laborieuses, et on en a vraiment conscience, mais c'est la réalité. Et peut-être, j'avais autre chose, mais je me souviens plus, c'est pas grave, ça reviendra après.
En fait, il faut... Si on trouve qu'on est la bonne première partie. Parce que...
Ah ouais, carrément. Oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Merci. N'hésitez pas à regarder les programmations des salles, déjà pour voir si ce que vous faites peut correspondre à l'esthétique de la salle. Comme disait Pollyanna effectivement tout à l'heure, des fois vous faites des choses qui sont complètement à côté. Moi, des fois, je reçois des propositions de cirque pour venir jouer à la cave. Enfin, voilà. L'exemple est extrêmement exagéré, mais c'est quand même assez important de vérifier avant d'écrire.
Ça s'appelle la cave, c'est qu'il y a une raison.
Voilà, il y a 1,93 m de hauteur sous plafond. Ah oui, du coup, par exemple, bon ça on peut pas forcément le savoir, mais les contrebasses, ça ne marche pas à la cave aux poètes. Si vous faites plus d'1,93 m, ça ne marche pas à la cave aux poètes. Mais bon, ça c'est plutôt de l'anecdote. Mais en tout cas, sur l'aspect vraiment... et esthétique musicale, voilà, n'hésitez pas à regarder. Et n'hésitez pas à regarder aussi les têtes d'affiche si vous voyez qu'il n'y a pas de première partie et que vous êtes carrément dans la veine de cet artiste-là, que vous êtes de la région, que vous avez fait un peu de concert, que vous avez votre base de public. Vous avez tous les arguments. Après, ça marche pas. Si ça marche pas cette fois-là, ça marchera peut-être celle d'après. Voilà. Mais ça, c'est des trucs qui se tentent et qui aussi font gagner du temps. Parce qu'en fait, du coup, vous n'êtes pas obligé de faire des mails à absolument tout le monde dans tous les sens. Si vous faites des mails qui sont bien placés, bien ciblés, vous gagnez vachement de temps, quoi.
Il faut viser juste, il faut pas hésiter à relancer. Et est-ce qu'il faut aussi proposer au programmateur ou à la programmatrice de venir voir un concert ? Est-ce que ça se fait, ça, pour justement avoir un billet d'entrée dans une salle ?
Bah, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, les excuses pour envoyer des mails, c'est « Bonjour, on joue pas loin, n'hésite pas si tu veux venir, on t'invite. » Et ça, c'est super. En fait, déjà, ça nous montre qu'il y a des actualités, que ça joue. Et en plus, bah, si on peut venir ce jour-là, bah, du coup, on peut voir en live, donc on peut jauger de ce truc-là. Moi, je trouve ça, les groupes qui m'invitent à leur concert, je trouve ça génial, j'adore et je réponds tout le temps. Je trouve ça super.
Et j'ai envie de dire, c'est pareil pour les dispositifs d'accompagnement et les dispositifs de repérage, parce que comme il y a jury de sélection, c'est mieux si on a vu les projets avant. Donc en fait, vous regardez un petit peu, en général, les jurys, ils sont révélés après les sélections. C'est des gens potentiellement qu'on peut inviter, en fait. Et pareil pour les médias, et enfin, n'hésitez pas à inviter les gens, quoi.
Et c'est vrai que tu disais que tu étais en relation avec des tourneurs qui te proposaient des projets. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs du secteur qui te proposent des choses ? Si c'est pas l'artiste ou le groupe qui te contacte directement. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires ?
Sur la programmation, pas à ma connaissance et pas à mon niveau en tout cas. Après, il peut y avoir dans la métropole ou dans d'autres régions des promoteurs locaux. Type pour la métropole lilloise, Tu m'étonnes Productions, à gauche de la Lune, qui eux, du coup, produisent des dates dans des salles, mais n'ont pas eux-mêmes de lieu, et en fait font l'intermédiaire entre un gros tourneur qui va pas venir nous parler parce qu'il fait des trop grosses choses, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est quand même assez souvent comme ça que ça se passe. La structure qui connaît les salles et qui du coup va venir organiser des dates dans les salles, mais nous on a une trop petite jauge, on les intéresse pas. Sauf pour la tournée fantôme de l'Homme Pâle, là c'était super. Mais sinon, non, nous on n'est pas financièrement, c'est pas intéressant pour les promoteurs locaux de venir à Cannes.
Mais ça arrive aussi, qu'il y ait certains programmateurs, programmatrices qui vont s'appuyer sur des plus petites structures, notamment des structures de repérage, parce que là, pas le temps de regarder dans les mails ou pour construire la programmation, il manque. Un truc hyper spécifique en première partie, moi ça m'arrive souvent d'être sollicité pour me dire t'as quoi dans les sélections inuits, mais pas forcément dans les 8 qu'on présélectionne en plus. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant des fois de postuler sur ce genre de dispositif, parce que ça permet de rentrer quand même dans une sorte de base de données où on peut aller rechercher un truc très spécifique avec une harpe qui fait un peu d'électro et bim, ça donne une première partie, je sais pas, au poupafone, ou enfin voilà, des. C'est aidant, quoi.
Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que vous en avez ? Peut-être sur la programmation, comment accéder à...
Est-ce que la newsletter, par exemple, via Sending Blue, des trucs très complexes où on passe une heure, est-ce que c'est nécessaire ?
Je dirais pas que c'est nécessaire. Si elle est bien faite, qu'elle est synthétique, avec toutes les informations lisibles et qu'elle permet de gagner du temps, moi je trouve ça bien. Après, pour une première prise de contact, je pense que c'est... Après, je vais dire ça, mais c'est toujours mieux de faire un mail personnalisé, parce que même vous, si vous recevez un mail, vous préférez recevoir un mail personnalisé qu'une newsletter. Après, on a complètement conscience du temps que ça prend et du côté chronophage et voilà. Donc une newsletter, si elle est bien faite, et qu'elle donne des informations qui peuvent intéresser la personne à qui vous vous adressez, bien sûr.
Parce que du coup, moi je fais une newsletter pour le public, pour les gens qui veulent la recevoir, mais pour les pros, enfin, vous en tant que pro, ça ne vous dérange pas de recevoir une newsletter d'un artiste si.
Ça dépend, si c'est une newsletter pour dire voilà les actus, voilà ce qui se passe. Moi, au contraire, je trouve ça plutôt intéressant. Après, il faut être conscient qu'une newsletter n'appelle pas de réponse. Donc si vous attendez une réponse d'une newsletter, c'est pas la bonne stratégie. Parce qu'une newsletter n'appelle pas de réponse. Enfin, vraiment, une newsletter, c'est « bonjour, il se passe ça ». Et même les gros tourneurs qui envoient des newsletters, hein, moi, je les regarde, je fais « ah, ok, super », et je les supprime. Mais j'ai eu l'info, j'ai regardé des choses qui m'intéressaient, j'ai noté dans un coin de ma tête, mais ça n'appelle pas une réponse. Donc si l'objectif de votre newsletter, c'est de dire « allez streamer le nouveau titre, venez voir tel concert pas loin », voilà, mais on ne vous répondra pas.
Après, ça peut toujours être la première étape d'envoyer la newsletter, voir qui c'est qui a ouvert, ensuite vous relancez les ouvertures, en fait. Voici à des clics, c'est encore meilleur. Mais ça peut permettre ça, ou de renvoyer le fameux petit message « demande de rendez-vous » ou « quand il y a des événements pro comme ça, j'ai vu que t'as, enfin voilà, j'avais envoyé une newsletter, je viens à l'événement, est-ce que c'est possible de se voir 5 minutes ?» C'est toujours plus simple de coincer quelqu'un en physique. C'est horrible. Non, mais voilà, c'est ces moments-là où on peut moins se dérober, quoi. Donc,
genre et tout de suite après, en fait.
Alors, on va rentrer très vite.
Il y avait une question, je crois, juste.
Vous dites d'envoyer des liens par rapport à des vidéos et tout. Est-ce que derrière, vous êtes un peu plus curieuse parfois quand il y a un petit truc qui va vous plaire d'aller sur les réseaux sociaux, et est-ce que ça peut vous influencer? Par exemple, d'aller voir le Facebook du groupe ou l'Insta, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous influencer? Dire, j'aime pas trop, mais par contre, leur page, elle est quand même active, il y a des trucs.
Carrément. Je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, moi c'est un truc auquel je suis hyper sensible parce que je pense que les réseaux sociaux c'est une vitrine du projet artistique, et s'il y a des réseaux sociaux qui sont cohérents avec une image qui est travaillée, avec un truc qui est raccord avec ce que j'ai entendu, je me dis ok, le projet il est pensé, il est structuré, il est quali, c'est chouette. Ça peut avoir un impact vraiment positif parce que ça peut représenter une direction artistique qui est vraiment travaillée, vraiment présente, quoi. Donc non, pour le coup, c'est assez utile. Et que ce soit sur des groupes locaux émergents, mais même sur des têtes d'affiches. Hein. Je passe ma vie sur Instagram, je stalk les gens et tout. Mais en fait, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que, par exemple, justement, on parlait tout à l'heure d'essayer de comprendre les publics. En fait, si je vais voir un groupe, un tourneur me propose un groupe. Si je vais voir sur Instagram, je regarde les gens qui te suivent, je regarde les gens que je connais qui suivent. Par exemple, mon petit frère qui a 19 ans, qui est hyper à la pointe de tous les trucs qui marchent chez les lycéens, bah, si je vois que mon frère et 4 de ses potes suivent ce truc-là dont j'avais jamais entendu parler, je me dis, ah ouais, il y a un truc, ça parle à cette tranche d'âge, il y a peut-être un truc, et je veux lui envoyer un message, ah ouais, tu connais, machin, et il me dit, bah ouais, grave, et je le programme et je fais 200 personnes. Mais vraiment, il y a des trucs comme ça qui peuvent se passer. Et du coup, le côté réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est aussi voir quelle communauté vous pouvez toucher, et des fois, c'est des choses très... peu palpables, mais qui peuvent avoir un impact.
Est-ce que tu as l'impression que les gens qui follow sur Instagram, c'est les mêmes personnes qui vont au concert?
Eh bah, bien, pas forcément, effectivement. C'est pas, je dis ça, j'ai exagéré mon exemple, évidemment. Hein. C'est pas parce que mon frère, il le suit que je vais le programmer, mais...
Ça dépend des styles et tout, et du coup, pour nous, des fois, comme artistes, tu vois, on a l'impression qu'on a un vivier aussi de public sur une zone, machin.
Ouais.
Puis en fait, tu fais un concert, les gens qui viennent, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, du coup, ton expertise m'intéresse sur cette question-là.
Alors, je dirais pas du tout que j'ai une expertise là-dessus, parce que c'est un phénomène que je trouve aussi extrêmement mystérieux, et qui est, pour le coup, qui dépend vachement des esthétiques, mais c'est la même question que les streams, en fait. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'il y a certaines esthétiques musicales, s'il y a beaucoup de streams, ça peut potentiellement dire qu'il va y avoir beaucoup de gens, et d'autres esthétiques où c'est pas le cas. Enfin, en fait, c'est vraiment hyper variable. Par exemple, sur le rock, des fois, il y a des trucs où il y a vraiment peu d'écoute sur Spotify, mais en fait, comme c'est un public qui est un peu niche, un peu curieux, qui va plutôt être sur une logique de lecture de presse musicale plutôt que d'écoute de plateforme, bah en fait, il y a, je passe 5000 auditeurs par mois, mais sauf qu'on va blinder avec des gens qui ont lu l'article, j'exagère le trait à mort, mais dans les Inrock. Voilà. Et à l'inverse, sur le rap, il peut y avoir des millions de streams, sur un titre, et en fait c'est pas un public qui va trop voir des concerts, donc il a pas vu passer l'info parce que l'artiste il a pas relayé sur ses réseaux sociaux et que évidemment il suit pas la cave aux poètes. Ouais.
Donc t'as un top TikTok, t'as juste un titre qui est à 3 millions et le reste ça monte pas, ça décolle pas. En général c'est parce que soit ouais il y a eu un top TikTok ou c'est dans les musiques Instagram Story, ça fait la blinde de vue, mais en fait en termes de remplissage ça fonctionnera pas. Ou alors les gens ils viendront juste pour ce morceau là, je sais pas si vous avez vu passer un truc affreux de vidéo où les gens ils connaissaient que 20 secondes du morceau parce que c'était les 20 secondes que tu pouvais mettre en top TikTok. C'est ça aussi maintenant. Et moi, je voulais rebondir parce qu'on organise aussi un festival en région, mais du coup, qui n'a pas du tout les mêmes logiques de programmation, parce que c'est un festival plutôt sur la scène émergente qui s'appelle Live entre les livres et qu'on fait en médiathèque. Et à la fois sur les dynamiques de public, du coup, nous, on a absolument perdu personne, parce qu'on est sur des petites jauges entre, on va dire, 20 et 100, selon les médiathèques, et on est vraiment sur un autre public, quoi. Et c'est assez intéressant, parce que du coup, on se dit, c'est bon, en termes de développement culturel, il y a toujours des gens dans les territoires, en tout cas, qui ont envie de voir de la musique, et qui ne vont pas du tout...
Dans les salles,
qui vont même pas streamer. En général, ils viennent à la médiathèque et ils savent pas toujours ce qu'ils vont voir. Par contre, ils vont acheter beaucoup de CD, ils vont ensuite suivre les artistes. Et nous, ce qu'on a déjà vu, c'est des gens qui vont venir au release party, financer du crowdfunding. C'est aussi intéressant de... Je comprends qu'on ait envie d'être programmé dans sa salle, mais du coup, effectivement, et comme le disait Pollyanna tout à l'heure, il y a énormément d'autres réseaux où on peut se faire programmer et où on fidélise aussi plus de gens. Il y a des belles relations qui peuvent se faire et où on peut être rémunéré aussi en cachet.
D'autres questions? Ouais.
Tu parlais aussi des streams, que tu regardes les streams sur Spotify et tout. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les streams organiques et ceux qui sont achetés?
Pas du tout.
Du coup, comment tu fais?
Les streams, alors moi c'est un truc que je regardais un peu au début, mais franchement je regarde à peine maintenant. C'est vraiment pas super révélateur. Alors ça peut être révélateur à un niveau, c'est-à-dire que s'il y a genre 50 auditeurs par mois, effectivement là on se dit que c'est un projet qui est encore vraiment au début. Par contre, vraiment c'est quand même, ça peut être significatif sur le rap, je le répète quand même, sur le rap ça peut être significatif, sur le reste c'est vraiment hyper compliqué. Ça peut donner une espèce d'ordre d'idée, mais vraiment faut pas se fier complètement à ça. Et c'est comme je parlais d'Instagram tout à l'heure, hein, c'est pareil, ça peut donner des indications, et c'est un petit critère parmi 14 000 autres critères qu'il faut prendre en compte.
Je suis arrêtée parce que c'est un truc que je bosse pas mal, il y a d'autres choses, c'est difficile aussi quand on est artiste parce qu'on ne choisit pas les gens qui nous suivent. Et par exemple, moi j'ai une amie qui avait plein de streams en une semaine au Brésil. Moi-même, j'ai plein de gens, enfin j'ai vraiment pas mal de gens qui me suivent et je vends des listes sur internet, etc. Mais c'est pas toujours évident de savoir. Enfin, je sais où ils sont moi, mais c'est assez fou quand même. Donc vous, quand vous voyez ça, vous savez pas. Parce que même s'il y a 1 million de streams, si c'est entre l'Indonésie et
ouais,
tout ça,
bah, bien sûr.
Mais nous-mêmes, on se retrouve pas dans ces situations-là. Hein,
ouais.
Voilà, moi je suis très suivie dans des endroits super cool, mais c'est pas forcément l'endroit où j'habite, quoi.
Non, on le prend pas.
C'est l'endroit où j'habite aussi, quoi. C'est vraiment des réseaux sociaux, ça amène à ce que j'ai dit tout à l'heure, à une ouverture maximale qui est vraiment très enthousiasmante, mais faut voir aussi que c'est pas. Des fois, c'est pas évident de rapprocher ça à une situation concrète dans un endroit où.
Oui, bien sûr. Mais. Tu vois, pour rebondir sur du coup est-ce que ça rentre en jeu dans la programmation? Moi, je trouve ça plus intéressant de pouvoir dire j'ai rempli tel lieu, tu vois. Et en général, un programmateur, une programmatrice, s'il y a un doute sur une tête d'affiche, va demander, mais du coup, ils ont fait, s'il y a eu par exemple une boule noire ou des lieux un peu équivalents mais sur Paris, tu dis bah du coup ça remplit combien, est-ce que ça a fait complet, ça a fait complet en combien de temps, et du coup en tout cas les logiques de tête d'affiche elles sont un peu comme ça, et il faut peut-être aussi des fois vite se mettre là-dedans quand on est en groupe en première partie et support, c'est vraiment ce truc de enfin en fait, quel nombre de... Quelle fanbase tu... Mais comme il y avait avant, les groupes de rock pouvaient remplir... Enfin, un groupe local, tu savais vite qu'il pouvait y avoir 100 personnes qui venaient voir ce groupe-là. Et je trouve que ça s'est un petit peu perdu. Alors, je sais pas... je pense que ça date d'avant le Covid. Mais c'est... Si vous savez montrer que vous pouvez être mobilisateur de public, c'est bien de le mentionner.
Oui, carrément, je rebondis là-dessus avec un exemple hyper concret. Moi, là, sur la saison 2023, j'ai booké une date. Alors, je suis très contente de cette date-là, etc. Mais par contre, je sais que ça va faire personne. Et du coup, je me dis, bah, pour contrebalancer le fait que ce soit une date très risquée, je vais mettre un... Alors, je sais pas comment j'avais dit ça. Un local sécurisant. C'est-à-dire un groupe local où je sais que c'est un groupe qui est super suivi, qui est suivi par plein de réseaux différents et où en fait ça va amener des gens. Non, je parle pas ça. C'est une autre qui est pas encore annoncée. Mais